Ah là là. Donc, deuxième podcast. Bonsoir, Pauline. On va dire ça comme ça. Bonsoir.
Bonsoir.
comment vas-tu? Ça va bien?
Ouais. C'est très, très officiel comme ça, mais oui.
Bah écoute, oui, on est très sérieux dans le monde du podcast. Comme on peut l'entendre à chaque fois qu'on enregistre, on est très, très sérieux. Du coup, ça fait 2 semaines qu'on a enregistré celui sur Friends, à peu près.
Oui, quelque chose comme ça.
Oui, si, ça fait 2 semaines pile. Ça fait 2 semaines pile. Et aujourd'hui, on se retrouve pour explorer une nouvelle série des années 90 qui est une de nos favorites.
Et... inconnue pour la plupart des gens.
Alors, je dirais pas inconnue. Je répéterai ce que tu avais dit la semaine dernière. Enfin, il y a 2 semaines, il me semble que tu avais dit qu'on était un peu seuls dans notre engouement pour la série.
C'est pas faux.
Alors, je dirais pas qu'on est seuls. Je dirais que... on est peu entouré de gens dans notre entourage proche. Ça fait beaucoup de mots entouré, mais...
Bah pour moi, c'est juste un euphémisme pour dire seul. Hein, mais bon.
Non, parce qu'il y a des gens qui aiment nous en faire aussi sur Internet. Il y a quand même des appels au revival fréquents. En tout cas, du côté américain.
Oui, oui, mais moi, quand je disais ça, c'était de notre génération, dans nos potes. On était seuls dans notre amour pour Une Nuit d'Enfer, quand même.
Oui, parce que je crois qu'on n'a encore pas dit qu'on allait parler d'Une Nuit d'Enfer, en fait.
Non.
Donc, on va parler d'Une Nuit d'Enfer qui reste pour... Alors, de mon point de vue, je pense que t'es pareil, mais qui reste pour moi une de mes séries préf des années 90 et de mon enfance, quoi.
Tellement, tellement.
Pour des raisons en plus que j'arrive pas trop à m'expliquer. Que j'arrive pas à m'expliquer. Parce que la série est bien, mais elle est pas révolutionnaire sur plein de points. Elle a pas apporté des nouvelles choses. Elle suit un format très classique à l'époque.
Puis y a plein de clichés, il y a plein de... Ça vieillit un peu maintenant et tout, mais c'est vrai que... Moi, je me lasse pas de la revoir, en fait, même maintenant. Et pourtant, on sait qu'il y a des défauts.
Ouais.
Mais je sais pas pourquoi ça passe, en fait.
Ben, c'est ça. Je la trouve, effectivement, comme tu disais, il y a plein de défauts. Mais, encore une fois, ça fait partie de ces séries comme Friends, que pendant le confinement, j'ai re-regardé.
Mm.
Que j'ai re-regardé quand j'étais blessée et que j'ai dû passer des mois allongée à attendre. Donc, j'ai re-regardé ça. Je sais pas pourquoi, mais cette série, elle a un truc. Elle me rappelle aussi des moments de quand on était petite et qu'on rentrait et qu'il y avait ça à la télé. C'était le midi, surtout, si je dis pas de bêtises.
Le midi, mais comme à une époque, le midi, il y a eu Charmed, Malcolm. Mais c'est surtout... En plus, je pense que c'est comme nous, on n'avait pas le droit de choisir le programme.
Ouais.
Quand on pouvait le regarder, c'était en plus le petit côté...
Ouais.
C'est vraiment un plaisir parce que c'est rare et donc.
Oui, c'est vrai. Quand on rentrait le midi, c'était les infos, c'était l'enfer.
Bah, en général, on pouvait commencer un épisode.
Ouais.
Et quand Dad arrivait, par contre, fallait switcher aux infos ou éteindre la télé.
Ouais, c'est pas
Et fou. Du coup, on terminait pas toujours les épisodes et tout, mais on avait voilà un petit aperçu, un peu le goût de la série, ouais.
Et ben, est-ce qu'on ne donnerait pas un petit aperçu à nos auditeurs nombreux et nombreuses auditrices aussi, un petit aperçu de cette série, un petit résumé global? Ça devrait aller vite, c'est moins compliqué, je trouve, que Friends à résumer.
Je sais pas.
Ok.
Je sais pas, parce que je trouve que les personnages, il y a aussi pas mal de personnages et ils forment... Enfin, c'est un ensemble, mais ils sont quand même beaucoup plus facilement distinguables, on va dire, que dans Friends, je trouve.
Ok. Est-ce que tu veux tenter le résumé ou est-ce que tu veux que je le tente?
Comme tu veux.
Bah écoute, on va dire que c'est mon tour. Et la semaine prochaine, ce sera ton tour.
Allez, chacune son tour.
Ok. Alors, si je devais résumer et présenter de manière... succincte, la série Une Nuit d'Enfer à quelqu'un qui connaît pas, je lui dirais que c'est une série donc des années 90 et qui fleure bon les années 90 qui vraiment sniffe les années 90 à fond. Donc c'est une série des années 90, une sitcom, donc comme Friends, qui raconte l'histoire donc de Fran Fine, personnage principal joué par Fran Drescher. Et donc cette Fran Fine se fait virer de son emploi dans une boutique de mariage par son petit copain, qui devient son ex-petit copain. Elle cherche du boulot, elle trouve du boulot en tant que nounou dans une grande famille, dans une famille riche, bourgeoise, on va dire, d'origine britannique et qui vit à New York. Et toute la série, elle va vivre dans cette famille et il va se passer plein de péripéties, plein de trucs. C'est une série sitcom vaudevillesque, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeux, de comédies avec les quiproquos, des personnages qui rentrent et qui sortent d'une pièce pour faire rire. Enfin voilà, c'est vraiment très théâtral. Et le petit twist, je pense, par rapport à d'autres sitcoms de l'époque, c'est que Fran Fine vient d'une famille juive et que du coup la série explore beaucoup son héritage juif et la culture juive en général, qui clash un peu et qui s'oppose à une culture aristocratique britannique que la famille riche véhicule un peu. Donc c'est le clash des cultures, le clash des classes sociales, c'est tout ce qu'on aime en fait dans un truc comique. Tu prends deux personnes qui ne viennent pas du même milieu, qui n'ont pas la même culture, et tu les mets ensemble et tu les regardes évoluer, et c'est très drôle. Voilà.
C'est un bon résumé.
C'est succinct. Après, pour rentrer dans les détails, voilà, on peut y aller et dire que la famille est composée du père et de ses trois enfants, et qu'ils ont un maître d'hôtel, et que...
Niles, maître d'hôtel.
Et que, en plus de ça, il y a des personnages secondaires qu'on voit régulièrement, la mère de Fran, sa meilleure amie Val, la grand-mère, Yetta, l'associé de business du père de famille. Enfin voilà, il y a plein de monde qui évolue, et tout ce petit monde, effectivement, a son caractère bien défini. On dirait ça comme ça, ils sont tous effectivement très distincts les uns des autres. Et c'est ce qui fait que quand ils évoluent ensemble, ça devient drôle en fait. Mais je sais pas, tu dormais, genre t'avais rien à dire.
Non, pardon, je t'écoute, excuse-moi. Donc effectivement, ils ont tous leur individualité qui font que quand ils, dans leur rapport les uns aux autres, ça, c'est souvent cocasse et... Et c'est ça qui fait que ouais, ça marche bien en fait, que la sauce prend bien.
Ouais, donc c'est, enfin, je pense que cette série, nous, on a découverte un peu par hasard entre guillemets, parce que ça passait le midi avec les autres séries qu'on pouvait pas regarder en famille. et je me souviens pas de la première fois où je l'ai vue à la télé. Tu vois, pour moi c'est un moment de vie, c'est-à-dire on est jeune, on est en primaire, on rentre à l'école, on rentre de l'école et on mange. C'est dans cette période-là, mais je me souviens pas de la toute première fois où je l'ai vue.
Non, moi non plus. En plus, c'est le genre de série, comme on l'a beaucoup vu après. J'ai l'impression que ça a toujours été là, tu vois, que j'ai toujours connu ça. Et donc, je me souviens pas du moment...
Où ça a débuté.
Parce que... C'est pareil, après, on a vu vraiment tous les épisodes, toutes les saisons et tout.
Ouais.
Et alors que quand on voyait ça à la télé, on devait voir trois quarts d'épisodes, une fois de temps en temps, dans le désordre et tout. En plus avec les habitudes de diffusion et de rediffusion française où c'est dans n'importe quel ordre et
c'est coupé, on sait pas ce que ça fait,
ils cassent des saisons n'importe comment et tout. C'est un peu fouillis dans ma tête. Par contre, je sais qu'il y a des saisons que j'ai vu que tard, par exemple les dernières, la sixième. Moi, je les ai vus très tard. J'ai vu beaucoup plus les autres.
Ouais, c'est vrai.
Il y a des épisodes que j'ai l'impression d'avoir vu beaucoup et d'autres que j'ai découvert qu'après, en fait, en me faisant vraiment toutes les saisons.
Bah, c'est un peu pareil pour moi, je crois. Parce que je les connais plus maintenant, on va les avoir revus plein de fois. En plus, faut dire aussi qu'à l'époque, on les regardait en français, et c'est une des séries de notre enfance que j'apprécie encore de regarder en français parce que le doublage, il est très bon quand même.
Le doublage est très bon, la traduction des blagues est pas mal souvent.
C'est vrai.
Il y a des trucs qui passent à la trappe.
Ouais, mais c'est marqué culturellement, c'est compliqué. Hein.
C'est ça. En plus, il y a des blagues effectivement qui sont très ancrées dans l'époque, très ancrées dans la culture de l'époque.
Ouais.
Donc effectivement, c'est pas forcément évident à traduire, mais ouais, dans l'ensemble, je trouve que c'est ça se tient quand même encore bien.
Ouais.
Et d'ailleurs, en regardant l'épisode tout à l'heure, en fait, quasiment toutes les blagues, je les avais en français qui me venaient à la tête parce qu'on l'a beaucoup 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 vu en français en fait cette série.
Ouais. Non, j'avoue que c'est une série voilà, qui est re-regardable en français sans problème parce que les blagues sont bien traduites. Les doubleurs sont vraiment très bons. Faut qu'on cite quand même le doubleur de Niles.
Bernard Allan.
Qui est Bernard Allan. Et pour nous, Bernard Allan, c'est...
un dieu.
C'est notre enfant, c'est Hibernatus. C'est comme ça, c'est la vie, c'est Bernard Allan.
Et en plus, c'est quand même un doubleur extraordinaire.
Ouais.
Qui... Si ceux qui nous écoutent vont chercher sur internet, ils vont se rendre compte qu'il a forcément doublé plein de trucs,
ouais,
qu'ils connaissent et ouais, en fait, il est vraiment partout.
C'est partout. Un peu comme Roger Carrel en son temps.
Exactement.
Voilà. C'est...
Et puis il a plein de talents, il chante, enfin c'est.
Non, il est vraiment très très bon et le doublage de Niles c'est vraiment excellent et c'est aussi je pense. Une des raisons qui explique que ça ait marché aussi un peu en France, parce que la série est toujours rediffusée actuellement, c'est le doublage qui est très très bon, parce que Niles, c'est un personnage dont la principale caractéristique est d'être commentateur sarcastique de tout ce qui se passe dans la maison.
Et il le fait tellement bien.
Ah oui, et si on n'avait pas ça en français, je pense que la série aurait fait un flop, parce qu'on serait passé à côté de ça.
Ça y est, Niles, me voilà devenue Miss Babcock. Aidez-moi à entrer dans le personnage. Essayez de m'envoyer une de vos vannes.
Oh non, Miss Fine, cela m'est impossible.
Allez, faites un effort. Hello, hello, je suis Cici Babcock. Oh, je pars travailler.
Toujours le même trottoir. Oh.
Terminé sur la présentation générale de la série. Je rajouterais que Fran Drescher, qui est la créatrice de la série, qui produit aussi cette série avec son mari de l'époque, et qui est du coup l'interprète du personnage principal. Fran Drescher n'a pas eu une vie extrêmement facile, donc ça a donné lieu à des traumas personnels, et elle en parle dans sa vie, etc. Et en fait, du coup, c'est une femme qui est assez forte de manière personnelle, donc en tant que femme, en tant qu'actrice, et ça se ressent dans son personnage, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on aime autant la série, c'est que Fran Fine dans la série est une femme forte, ou en tout cas l'ébauche de ce qu'on maintenant on appellerait une badass.
Ouais.
Parce que, mine de rien, qu'elle se fait plaquer par son mec et virer en même temps de son ancien taf. Elle se ressaisit, elle va tout de suite chercher du boulot. Après un quiproquo impossible, improbable, elle arrive à se faire embaucher. Elle montre des vraies qualités humaines. Elle ne s'en laisse jamais compter. Elle a des aventures amoureuses avec plusieurs mecs. Mais c'est toujours elle qui dicte quand ça se termine.
Mmh.
Au final, elle est...
En fait, c'est une femme moderne, un peu... Ouais. Enfin, moderne, j'entends, du 21e siècle, quoi.
Ouais.
Alors que dans les années 90, c'est pas forcément le type de personnage féminin qu'on voit le plus à la télé. Et effectivement, elle est indépendante, en fait, c'est ça. Et elle se prend en main toute seule.
C'est ça.
Et malgré... sa mère juive envahissante et le poids des traditions
c'est clair
à reproduire, et ben en fait elle mène sa barque et c'est elle qui décide, et ça c'est plutôt cool.
Ouais, parce que c'est le poids de la culture juive, il est hyper important dans la série. Moi j'ai découvert plein d'aspects de la culture juive que je connaissais pas grâce à cette série. Alors je pense que maintenant, et d'ailleurs c'est même pas je pense, mais c'est je sais en fait, parce que j'ai tapé représentation juive, une nous d'enfer sur internet. Et j'ai trouvé des articles en anglais de personnes juives qui disaient que c'était pas extrêmement positif, enfin qu'il y avait beaucoup de clichés, beaucoup de stéréotypes. Et Fran Drescher avait expliqué en tant que productrice de la série qu'effectivement il y avait des stéréotypes, mais que des fois ces stéréotypes, c'était un peu la réalité, en fait. Elle l'avait exprimé, elle a raconté sur l'écran une partie de sa vraie vie. Voilà, le personnage de Fran Fine, il est pas loin d'elle du tout.
Pas du tout. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques de Fran Drescher, c'est que dans tout ce qu'elle a fait,
oui,
toutes les séries qu'elle a fait, C'était clairement sa vie. Hein.
Oui, c'est clair.
Clairement sa vie. Là, alors, pour le coup, c'est pas une artiste qui a beaucoup d'imagination. mais oui, en fait, à chaque fois, c'est toutes ces séries, c'est sa vie à différentes époques, en fait. Et là, c'est un peu ça, quoi, parce que elle a mis ses parents dans la série.
Ah bah, les parents de Fran Fine dans la série s'appellent comme ses vrais parents à elle dans la vie.
Voilà. Ses vrais parents dans la vie jouent son oncle et sa tante
dans la série. Il y a quoi d'autre? Le fait qu'elle soit juive, culture juive, ça joue. Le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de guest stars dans la série, mais des stars des années 90 ultra connues aux États-Unis, enfin vraiment des gens du monde du spectacle qui sont oscarisés ou qui ont eu des Tony Awards, qui sont producteurs de comédies musicales, enfin des gens vraiment ultra connus. Il y a Ray Charles dans cette série.
Et qui a vraiment un rôle, c'est-à-dire qu'il est là pendant
plusieurs épisodes. C'est ça.
C'est ça, il n'est pas juste là pour faire coucou en passant, il y a quand même Ray Charles. Quoi. Donc,
il y a Ray Charles.
Elizabeth Taylor
qui est là. Elizabeth Taylor. Il y a, comment elle s'appelle, merde, celle qui joue, qui est une présentatrice de. Whoopi Goldberg.
Il y a Whoopi Goldberg, il y a Rosie O'Donnell, il y a.
Il y a plein de gens connus, en fait. Il y a Donald Trump qui fait une apparition.
Très brève, très brève.
Un peu, mais je crois que c'est
à l'époque où il était encore juste businessman et...
C'est un peu la même période où il joue dans Maman, j'ai raté l'avion 2, en fait, je crois.
Oui, oui.
Maman, j'ai encore raté l'avion.
Mais il a fait beaucoup d'apparitions comme ça au cinéma et à la télé. Hein.
Donc là, il apparaît juste. Il y a Pamela Anderson qui apparaît aussi. Oui. Il y a le casting de Les Feux de l'amour.
Oui,
Young and the Restless.
Ouais.
Il y a le casting qui apparaît.
Il y a Dr. Quinn, femme médecin.
Ah, il y a Dr. Quinn, femme médecin qui apparaît.
Et oui.
Donc, en fait, voilà, c'est vraiment... c'est pire que du name-dropping, ce que Fran Drescher fait dans la série. Elle invite tous ses potes. Oui, ils ont des caméos. Voilà, il y a vraiment des gens qui viennent et qui viennent pour elle. Et ça, on sent aussi que c'est une autre époque, parce que ça se fait plus trop maintenant dans les séries. Ou alors, quand les gens viennent, ils jouent un autre rôle, ils ont un rôle de complet de guest star. Là, les gens viennent en tant qu'eux-mêmes, juste pour faire coucou. Et c'est très drôle parce que, comme c'est une sitcom et qu'il y a du public qui regarde l'enregistrement, t'entends systématiquement les réactions des gens qui crient, qui se mettent à applaudir. Ouais, trop bien! Quand tu vois Ray Charles arriver, what? Tout le monde commence à hurler et tout, c'est assez incroyable. Donc, c'est une série où, de ce côté-là, ça fleure bon les années 90, vraiment fort fort. Alors, c'est quand même assez significatif. Et pour terminer, je dirais que Fran Fine, donc le personnage de la série, est quand même aussi extrêmement connu. Et sur les réseaux, c'est en train de remonter un peu. Parce que Fran a des tenues improbables. Oui. Oui. Elle a un sens du style.
Fran a une garde-robe, honnêtement. Pour une. C'est ça qui est marrant aussi, c'est, ouais, c'est on voit bien que c'est une série parce qu'en fait, c'est une jeune fille juive du Queens qui est censée être fauchée en arrivant chez ce producteur de Broadway. Et en fait, elle a une garde-robe de dingue qui sort du runway, quoi. Donc, c'est vraiment. Et ça devient, c'est un peu un running gag aussi de la série, c'est-à-dire qu'elle a toujours des tenues époustouflantes et...
Toujours appropriées à ce qui se passe aussi.
Voilà, et puis toujours très... Très...
Moulante.
Moulante, éblouissante, avec des paillettes.
Ah, il y a beaucoup de paillettes, ouais.
Enfin, c'est toujours très, très discret, quoi, voilà. C'est ça le mot que je cherchais.
Oui, et bien dans l'épisode d'aujourd'hui d'ailleurs, pour faire une jolie transition, ça arrive pas souvent, j'aurais même pas besoin de faire un montage pour faire la transition. mais dans l'épisode du jour qu'on a regardé du coup, qui était l'épisode 8 de la saison 2,
oui,
et qui s'appelle en français, si je ne m'abuse, Échange de personnalité.
C'est ça.
Donc dans l'épisode 8 de la saison 2, tout ce qu'on est en train de vous dire sur Fran et pour la caractériser, sa personnalité forte, exubérante, qui s'affirme, avec un goût prononcé pour les fringues qui brillent. C'est vraiment ce qui caractérise cet épisode et qui, c'est le point, en fait, on va dire, d'intrigue, le point narratif sur lequel repose l'épisode en entier.
Oui.
Ouais.
Clairement.
Est-ce que tu veux raconter l'épisode rapidement, ce qui se passe?
Alors, Oui, je
chaque fois j'ai l'impression que je te pose une question, mais c'est non, juste mais c'est un résumé.
Honnêtement, là j'ai un trou, genre ça commence comment? Je sais plus. Si, alors donc c'est le patron de Fran, Maxwell Sheffield, qui est donc producteur de. À Broadway, donc producteur de comédie musicale, a un nouveau projet en cours là, qu'il souhaite monter. Et il a besoin de financement pour ce projet.
Il veut de la moula, la thune.
Il veut de la moula. Et donc, il doit rencontrer un investisseur, un potentiel investisseur, qui a fait fortune dans le traitement de déchets. Quoi,
dans les poubelles.
Dans les poubelles. Et donc, il doit rencontrer cet homme. Il y a un rendez-vous de prévu, l'homme doit venir à la maison. Juste avant ça, juste avant son arrivée, l'associée de Maxwell, la Cici Babcock, déboule en pleine forme en disant que elle s'est battue pour avoir son taxi, qu'elle a mis un homme par terre et que ça y est, elle a mangé du lion et elle est prête pour séduire l'investisseur. Quoi.
Elle lui a donné un coup de parapluie.
C'est ça, elle lui a donné un coup de parapluie.
Pas un coup de bouteille, c'est un coup de parapluie.
Et donc elle va se repoudrer à la salle de bain et pendant ce temps-là, l'investisseur arrive d'une humeur de chien. En disant qu'il déteste la ville, il s'est fait taper dessus par une grande blonde dingue qui lui a mis des coups de parapluie.
Ah là là, mince donc, alors.
Le quiproquo s'installe.
Oh là là.
Puisque Maxwell comprend que c'est Cici qui a maltraité l'investisseur. Il faut donc tout faire pour que l'investisseur ne rencontre pas Cici.
Tout en essayant de clore le deal et d'avoir les tuyaux.
Voilà.
Compliqué.
Et à cet instant arrive Fran qui se fait passer pour Cici.
Voilà, on y arrive, le titre échange de personnalité.
Voilà.
Maxwell, Miss Fry ne pourra jamais se faire passer pour moi. Elle ne peut absolument pas avoir ma classe. Et elle n'a pas mon pédigré.
Alors on a une chance qu'elle ne se mette pas à japper devant tout le monde.
Et là, situation vaudevillesque au possible.
Ah oui.
Donc Fran se fait passer pour Cici et donc pour l'associé de Maxwell et donc va essayer de séduire littéralement l'investisseur pour qu'il signe le deal.
Pour qu'il lâche des thunes.
Bon, clairement l'investisseur est un gros porc. Hein. Clairement, il est beaucoup plus obnubilé par les jupes courtes et le décolleté de Fran que par le potentiel, le projet à venir.
C'est clair.
Mais bon, Fran, elle veut faire ça quand même pour son patron, pour qu'il puisse monter sa pièce et tout.
Ouais.
Donc tout l'épisode en fait tourne autour de ça, de cet échange de place, de personnalité, d'identité. Il se retrouve dans des situations plutôt cocasses, je dirais.
Ouais, c'est pas mal comme résumé.
C'est bien. Un petit peu long, il y a eu quelques détours, mais le gros est là.
Effectivement. Non, mais c'est pas mal. Ça me fait penser à certaines pièces de Molière, le côté « je prends ta place, tu te fais passer pour moi ».
Oui, c'est ça.
Voilà, on disait vaudevillesque parce que c'est vraiment ça. En fait, il faut vous représenter que quand les sitcoms sont tournés, elles sont tournées donc face publique, ce qui fait qu'on ne voit toujours qu'un seul côté d'une pièce. Il n'y a pas de... On ne voit jamais un autre angle de pièce, c'est toujours le même angle. Et donc, en fait, il y a des entrées et des sorties des personnages que par la droite ou par la gauche. Donc, côté jardin, côté cour. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Des personnages rentrent d'un côté, ils doivent sortir de l'autre, parce qu'il ne faut pas que l'investisseur y voit la vraie Cici. Donc, ça donne lieu à un mouvement des personnages et de l'intrigue, en fait, qui est assez représentatif de celui de l'ensemble de la série, je pense. C'est pas l'épisode le plus drôle.
Non.
Parce qu'il faut quand même qu'on se dise que la série est drôle. C'est vraiment drôle. Des fois, il y a des trucs, ça fait vraiment mourir de rire. Mais c'est pas l'épisode le plus drôle, mais c'est un des épisodes peut-être le plus représentatif de la série, parce qu'on aperçoit une Fran qui va vouloir aider son patron.
C'est ça.
Qui est loyale avec son patron, elle l'aime vraiment beaucoup. Alors, est-ce qu'elle l'aime un peu plus Peut-être. Est-ce que les 6 saisons...
Spoiler
Spoiler, pas du tout. Est-ce que les 6 saisons essayent de nous vendre une relation entre elle et son patron? Peut-être.
Je veux dire, faut pas dire trop fort, attention.
Ouais, faut pas dire trop fort, mais ça, c'est cousu de fil blanc, on le voit dès le début, donc c'est pas vraiment une surprise. Mais on la voit quand même, parce que certes, ils flirtent, et certes, on sent qu'il y a une attraction entre ces deux personnages, mais jusqu'à un certain point de la série, ça n'agit jamais sur... sur enfin, ça agit sur l'intrigue, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est pas le point central, on va dire.
Ça non, c'est pas, ça tourne pas du tout autour de ça, en fait. C'est plutôt... Ça. C'est plutôt un truc en fond, d'ailleurs.
Oui.
C'est pas du tout l'intrigue principale.
C'est plus un fil rouge. En plus, c'est traité à la manière des séries des années 90, donc il n'y a pas trop de... Puis, séries 90 américaines.
Mm.
Donc, il n'y a pas trop de... Il y a des scènes de baisers, mais bon, c'est pas... Voilà. C'est très mignonnet.
Il y a quand même pas mal... justement, pour une série de cette époque-là, je trouve qu'il y a quand même pas mal de sous-entendus un peu cochons. Hein,
Alors, par contre, il y a plein de sous-entendus.
Mais... Disséminés comme ça sur toutes les saisons, il y a quand même plein de trucs... Bon, tu te dis, pour une série plutôt familiale des années 90, je trouve qu'ils osaient peut-être un peu plus que...
C'est pas faux.
...que d'autres.
C'est vrai qu'il dit comme ça, c'est pas faux. Après, je pense que c'est sous-entendu cochon. C'est un peu comme dans les Disney quand il y a des doubles niveaux de lecture. Mmh. Quand t'es jeune, ça te passe au-dessus, tu vois que le truc concret. Et quand t'es adulte, tu vois que ça parce qu'on devient des gros cochons quand on vieillit. Ou des gros pervers, ou je ne sais quoi. Ou juste notre cerveau, il est branché différemment. Mmh. Mais ouais, effectivement, la série fait plus de sous-entendus.
Ouais.
Après, je crois que c'est aussi ce qui fait que la série, elle marche bien et qu'elle est drôle comme ça. C'est the quick wit, tu sais, genre les back and forth, les faits que ça se réponde hyper rapidement, que ce soit du tac au tac, que les répliques, elles s'enchaînent extrêmement vite, de manière extrêmement drôle.
Oui.
Si on en loupe une ou deux qui a un sous-entendu cochon, en fait, ça ne va pas nous empêcher d'apprécier la série.
Mm.
Et là, dans l'épisode, effectivement, ce n'est pas le plus drôle, ce n'est pas le machin, mais toute la construction de l'épisode réutilise les mêmes schémas, les mêmes gimmicks que sur l'ensemble de la série.
Mmh.
Et on a un aperçu de ça, et ça, c'est quand même assez marrant. Enfin, je veux dire, il y a des trucs, on se rend compte quand même de juste ce qu'il voulait dire, et enfin, juste c'est drôle, ça me fait rien dire penser.
Ce que tu dis, en fait, ça me fait réfléchir, mais la série, bon, alors évidemment, c'est elle le personnage principal, mais sa mère, donc Sylvia, et grand-mère Yetta, ont ouais. aussi des rôles très importants.
C'est vrai.
Et c'est trois générations de femmes qui, en fait, sont super indépendantes. Parce qu'en fait, le père de Fran, on en entend parler. D'ailleurs, ça, c'est un peu un gag dans la série. C'est-à-dire qu'on en parle, mais on ne le voit jamais.
Oui, c'est vrai.
Sauf à la fin, la dernière saison.
Oui, c'est le seul moment où il nous est révélé.
C'est ça. Mais le cœur de cette famille, c'est vraiment les femmes, en fait. C'est Fran, mmh. c'est sa mère, et c'est Yetta qui est extraordinaire, qui a eu une vie de dingue.
Yetta, c'est mes persos préférés, je crois.
Ouais, elle est géniale, Yetta. Ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est trois femmes indépendantes qui ont eu leur vie, qui se sont mariées, qui ont eu des enfants, mais qui restent indépendantes. Pardon. Et en fait, c'est elles qui décident, quoi, parce que
c'est vrai.
Fran... Elle obtient un peu ce qu'elle veut de Maxwell et à la maison, en fait, c'est elle qui décide. C'est,
oui.
elle est la nounou, mais c'est comme si c'était sa maison, sa famille et c'est elle qui a le dernier mot de toute façon.
Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai ce que t'es en train de dire, le fait que les femmes, elles sont au cœur de la famille et du coup au cœur de la série un peu.
Bah oui, parce qu'en fait, on les voit beaucoup après Sylvia, Yetta.
Ouais.
Au début, un peu moins, parce qu'il faut aussi mettre en place la série, la dynamique et tout.
Mm-hmm.
Mais après, c'est des personnages qui sont... Bah dire qu'ils sont toujours fourrés chez Maxwell. Ils s'en plaignent parfois, mais...
Ouais.
Vraiment, c'est un noyau, ces trois femmes qui est déjà super unie.
Ouais.
Et qui est au cœur de la série, en fait, je trouve.
Et puis, ce qui est beau, c'est que... Tout à l'heure, quand je disais Fran, elle ne change pas, alors, c'est pas vrai. Elle change, elle évolue au long de la série. C'est ça qui fait aussi que la série est intéressante, c'est qu'au cours des saisons qui font sa durée, chaque personnage évolue au contact des autres et apprend des choses. Fran et Maxwell vont être les plus grands exemples de ça, parce que c'est les deux opposés qui se côtoient le plus dans la maison. Mais donc tous les personnages évoluent, et en même temps on a des démonstrations de femmes fortes qui, elles, restent fortes du début à la fin. Et comme tu viens de le faire remarquer, on a 3 générations de femmes fortes qui vivent des choses qui, en plus, je pense, pour l'époque, devaient être assez... alors, peut-être pas révolutionnaires, on va pas s'emballer, j'ai pas vu toutes les séries des années 90 non plus, mais des choses qui sont assez nouvelles, ou peut-être novatrices pour l'époque, parce que quand on y réfléchit, donc Fran est au cœur de la série avec ses aventures, ses histoires d'amour et ultimement son couple avec Maxwell, mais Sylvia, la mère de Fran, vit aussi une histoire d'amour, et on parle de ses relations sexuelles et de ses flirts avec des hommes ou le père de Fran.
Ouais.
Yetta, qui est donc censée avoir 80 piges dans la série.
Ouais, on sait pas très bien, c'est flou, on sait juste qu'elle est très vieille.
Elle est juste immortelle, la dame. Yetta, qui... je crois que je dis 80 ans parce qu'il me semble qu'à un moment, Niles précise son âge.
Oui, oui,
dans
oui.
L'épisode où justement Yetta, après le feu qu'il y a eu dans son EHPAD, doit venir habiter chez Maxwell et Fran, enfin chez Maxwell. Et du coup, pendant cet épisode où elle habite chez Maxwell, elle ramène une de ses conquêtes et ils font l'amour du coup dans la chambre d'amis. Et je crois que Niles, pour foutre le seum à Sissy, lui dit après, voilà... Il y a une dame de 80 ans avec une hanche bionique qui a eu des relations sexuelles hier soir. Et vous, votre journée, comment ça se passe? Et du coup, je crois que j'ai 80 ans à cause de ça. Mais dans l'idée, voilà, on parle de Yetta comme d'une grand-mère qui a quand même des intérêts amoureux, sexuels, qui s'expriment dans sa féminité aussi. Parce que toutes les trois, quand elles sont sorties, là, c'est le festival des paillettes, c'est son... C'est son et lumière, un peu, le bordel. C'est la brique de mille feux. Et en même temps, c'est hyper sain, hyper drôle. Et d'ailleurs, Yetta se remarie. Donc, Yetta a eu une histoire d'amour quand elle était jeune. Elle a eu Sylvia. Son mari est décédé. Elle va en EHPAD après et elle flirte un peu à droite à gauche avec les gens de l'EHPAD. Et elle finit par rencontrer quelqu'un qui est joué par...
Richards.
Voilà, quand même, faut se le dire. Hein.
Quand même, hein. Épouser Richard, c'est pas rien quand même.
Voilà, parce que Yetta finit par l'épouser. Yetta se remarie alors qu'elle a 80 ans dans l'histoire. Et en fait, ça choque personne. Et il y a plein de blagues qui sont faites. On parlait des blagues un peu tout à l'heure, sexuelles, etc. Il y a des blagues qui continuent à être faites sur Yetta et le fait qu'elle ait une vie sexuelle avec Richard. Et c'est assez fou, en fait, de se dire qu'il y avait 3 femmes de 3 générations différentes qu'on représente dans toutes leurs facettes de leur vie, en fait.
C'est ça. Et que ouais, non, mais c'est vrai que t'as raison, c'est intéressant,
parce que souvent la facette de la sensualité ou des relations sexuelles, elle est un peu gommée quand on vieillit en tant que femme, parce que tu peux avoir plein de vieux mecs dans les séries, dans les films, là, qui chopent des jeunes là et qui touchent des jeunes. Ça ne gêne personne, ça, personne n'est gêné. Par contre, les vieilles femmes, c'est rarement raconté. Et là, on a une série où il y a 3 femmes de générations différentes qui ont toute leur vie racontée, les bons côtés comme les mauvais, la maladie, la joie, la tristesse, le décès, la peur de la mort, la transmission avec les générations d'après. Enfin, c'est... Y a vraiment un beau panel de représentation féminine.
Ouais.
Et un panel qui est plutôt sain. Alors, il y a plein de schémas qu'elles reproduisent. L'obsession, par exemple, avec le fait que Fran doit se marier et avoir des enfants.
Ouais.
Bon, ça, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Et pourtant, Fran résiste pendant 5 saisons. Hein. Pendant 5 saisons, elle essaye de s'affirmer.
Elle résiste, oui et non, parce que c'est quelque chose dont elle a envie elle-même.
Oui, elle en a envie, mais
c'est
des
pas
fois...
Vraiment, c'est, pas... Pardon. C'est pas vraiment qu'elle résiste, c'est plutôt qu'elle veut pas le faire avec n'importe qui, parce que, sous prétexte qu'il faut se marier, il faut avoir des enfants, en fait.
T'as raison. Ouais, elle résiste aux ambitions de sa mère qui voudrait que ce soit tout de suite maintenant.
Ça, avec le premier médecin venu.
Médecin juif, de préférence.
Bah oui, évidemment, médecin et juif. Mais en fait, c'est ça, c'est parce que c'est quand même un... Là, pour le coup, son personnage en a envie.
Ouais, c'est vrai.
Elle veut se marier, elle veut avoir des enfants, elle veut avoir une famille. Elle veut...
Ouais.
Mais par contre, avec ses conditions à elle, quoi.
Oui, c'est vrai que résister, c'est peut-être un gros mot, mais t'as raison. Elle n'est pas tant dans l'opposition à ce destin-là, c'est juste qu'elle veut le faire sous ses conditions
C'est ça, elle veut pas se
ouais.
laisser dicter le qui, quand, comment par sa mère, en fait, c'est ça.
C'est vrai. Ça, c'est plutôt cool aussi. Enfin, la pression sociale de se dire il faut absolument que tu sois mariée à cet âge-là, parce que c'est pareil, ça c'est un peu un running gag. Début de la série, Fran dit son âge, et puis plus les saisons avancent, plus son âge rajeunit. Genre,
C'est ça.
elle ment à tout le monde pour pas dire quel âge elle a. D'ailleurs, quand elle se marie avec Maxwell, ça devient une blague aussi, parce qu'il dit j'ai fait faire une enquête sur toi avant de t'embaucher en tant que nounou, mais la seule chose que le FBI a pas trouvé, c'est ton âge.
C'est ça.
Et du coup, il dit ils ont estimé à 30 ans ou 30, 31, je sais plus quoi.
Sais plus, ouais.
Et elle est là en mode Ah, bah si c'est ce qu'ils ont trouvé, alors. Genre, ok, bon, bah je prends. 31,
C'est
c'est cool.
ça.
Donc, oui, c'est voilà, c'est. Il y a des trucs comme ça qui sont renforcés par la pression sociale, et je pense que la série serait refaite maintenant, il y aurait peut-être plus ça. Mais dans l'ensemble, sinon, c'est vrai qu'elle est plutôt. Elle oppose, enfin, elle s'oppose, elle fait ses propres décisions, elle prend ses propres décisions, elle fait ses propres choix.
Ouais.
Sa mère et sa grand-mère sont pareils.
Ouais, et puis je trouve que ce qui est bien aussi dans la série, c'est qu'il nous montre un exemple d'amitié homme-femme
Ouais.
sincère,
Oui, c'est vrai.
sans aucune ambiguïté, jamais.
Oui, c'est vrai.
Et
Ah, faut que tu précises de qui tu parles là, parce
pardon,
que.
donc Fran et Niles,
Voilà.
le maître d'hôtel.
Parce que si tu parles, si les gens ils écoutent, ils se disent, mais ils ont dit tout à l'heure qu'ils finissaient mariés avec Maxwell. Ouais, non, mais je comprends rien.
Oui, non, alors effectivement, donc pardon, Fran, pour les non-initiés, Fran donc finit par épouser à la fin de la série son patron Maxwell. Mais dès le premier épisode d'ailleurs,
Ouais.
elle forme un lien amical avec le maître d'hôtel, Niles. Et ce lien va faire que se renforcer en fait. Et
Ouais.
ils vont vraiment devenir ouais, des amis sincères qui s'entraident, qui s'épaulent. Et il n'y a jamais d'ambiguïté.
Non,
On
c'est vrai.
sait très bien que voilà, ils sont juste amis. Et ils s'entraident un peu dans leurs conditions, tous les deux, de simples employés de maison. Et ils se retrouvent aussi dans leur désamour pour Sissi. Et ils ont la même répartie, le même humour. Et ouais, je trouve que ça, c'est intéressant parce qu'il y a quand même très peu de séries. Enfin, moi, bon, là, j'en ai pas, mais parce que, par exemple, même dans Friends, dont on avait parlé la dernière fois,
Ouais.
quasiment entre tous les personnages, il y a à un moment une petite ambiguïté,
Oui, c'est vrai.
un bisou ou quelque chose.
Je
Et
crois
là,
que tous les
jamais.
personnages de Friends s'embrassent au moins une fois, sauf deux.
Ben parce qu'ils sont frères et sœurs.
Non, ils sont embrassés aussi. Rappelle-toi quand ils
Oui,
parlent.
c'est
Ouais.
vraiment. Oui, on le voit pas, mais oui, ok.
Mais du
Non, mais
coup.
effectivement, il y a un truc. Voilà, ils ont tous eu des relations plus ou moins amoureuses avec tout le monde. Et là, c'est pas du tout le cas, en fait, dans Une nuit d'enfer. Fran et Niles, ils sont juste amis.
Ils
Et
sont
c'est
beaux.
cool en fait parce que ça, en plus, ça fait vraiment partie intégrante de l'histoire. Il y a des intrigues qui tournent autour de leur amitié, de leur relation en fait.
Sinon, ils ont une amitié qui est pure et qui est vraiment très très belle, t'as raison de le dire. Et les moments où ils se fritent et où ils s'entendent pas, et il y a de la tension entre eux, et ben c'est les épisodes, ça fait partie des épisodes les plus émotifs, émotionnels, je ne sais jamais, encore une fois.
Émouvant, émouvant.
Émouvant, c'est mieux. En fait, émotionnel, je pense que c'est un anglicisme de ma part.
Oui,
Ouais.
carrément.
Mais oui, ça fait partie des épisodes les plus émouvants parce que ils sont pas bien et ils se le disent en général à la fin en disant j'aime pas quand on n'est pas amis, et enfin c'est pas possible. Puis surtout c'est pour des broutilles, enfin.
C'est ça. Mais
Et
c'est ça parce que quand ils boudent, tu vois qu'ils aiment pas. Et d'ailleurs, ça se finit souvent par un câlin. Enfin, c'est-à-dire que physiquement aussi, ils se montrent qu'ils s'aiment en fait.
oui, c'est vrai que il y a beaucoup d'aspects Ça, c'est un des éléments qui repose le plus là-dessus. Enfin, qui repose le plus n'importe quoi. Ça veut rien dire, ma phrase, là.
Non,
ça veut
rien dire, ma phrase. Un élément qui repose là-dessus. Okay.
Je recommence. C'est un des éléments qui est aussi présent et sur lequel repose la certaine différence de classe et de situation entre Fran et son entourage. Mmh. C'est que Fran, elle est très tactile.
Ouais.
Elle embrasse facilement les gens, enfin, et par embrassade, je le pense au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'elle les prend dans ses bras. Elle fait des câlins, elle donne de l'amour, et c'est un peu ce qui lui permet de se faire une place aussi vite dans la famille, parce que quand elle arrive en tant que nounou, elle arrive dans une famille qui est brisée par la perte de la mère. La maman est décédée avant que la série commence, hein, ça fait un moment qu'elle est décédée, mais tu sens qu'ils s'en sont parmi, il y avait trois enfants qui s'en sont parmi, et... Maxwell qui n'en est parmi non plus. Et en fait, cette famille, elle est très dysfonctionnelle. Elle fonctionne à coup de rendez-vous chez le psy. Enfin, ils se demandent pas comment vont leur journée, mais au départ, ils commencent en disant comment s'est passé ton rendez-vous chez le psy, quoi.
Ouais.
Donc, Fran, elle arrive là-dedans avec toute son exubérance et son amour à donner. Et en fait, elle fait des câlins aux gamins. Elle est démonstrative dans son affection.
Mm-hmm.
Et ça, tout de suite, c'est un élément qui la met à part des autres. Mais c'est cet élément qui va lui permettre de se faire une place au sein de la famille et en fait de communiquer cette façon de faire à tout le monde, quoi. Elle va montrer la voie en disant bah, « Communiquez vos émotions et vos sentiments, vous verrez, on va tous aller mieux, ça va être sympa.
Mmh. » C'est et vrai.
C'est ce qui marche, au final. C'est ce qui fait que la famille est de nouveau liée, quoi.
Ouais. Non, mais c'est vrai que elle les aide à, comment dire, à faire leur deuil, en fait.
Ouais.
Et à reformer une famille à quatre, sans la mère, en fait.
Mm-mm.
Et à rester une famille malgré tout, et c'est vrai. C'est beau.
Et bah, je pense que le cœur de la série, c'est quand même ça aussi.
C'est la famille, clairement, c'est la famille.
Bah, c'est la famille, c'est les relations qu'on a et c'est la famille qu'on se crée. C'est un peu... Alors, peut-être que ça, c'est un peu un leitmotiv des années 90 parce que quand on regarde Friends, c'est aussi une famille qu'on se crée avec ses amis. Quand on regarde Charmed, c'est aussi la famille.
Ouais.
Quand on regarde d'autres séries des années 90 qu'on regardait pas trop, genre Le Prince de Bel-Air, bah, c'est la famille.
La famille, ouais.
En fait, c'est peut-être un leitmotiv de cette période-là. Mais la famille qui est proposée dans Une ou deux enfers, elle est peut-être un peu différente parce que bah, c'est une famille recomposée. Oui. C'est une famille qui a des problèmes...
Qui est dysfonctionnelle, faut le dire.
Ah ouais, qui est dysfonctionnelle de ouf, putain. C'est une famille qui communique pas. D'ailleurs, je crois qu'il y a un épisode où Fran, elle le dit, elle fait « Avant que j'arrive, il ne communiquait pas. » Et là, les enfants rentrent dans la maison et ils commencent à se hurler dessus. « Je te déteste ! Toi aussi, je te déteste !» Elle dit « Bah voilà, maintenant, ils communiquent. »
C'est ça. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle arrive dans une famille donc, un peu coincée, anglaise, où bah, effectivement, tu gardes tes sentiments pour toi.
Ouais.
Alors qu'elle-même, elle vient d'une famille où, en fait, bah, elles passent leur temps à tout se dire, en fait.
Ouais.
Elles n'ont aucune barrière, aucune limite.
Des fois, et peut-être pas assez du tout.
C'est ça, des fois même trop, en fait. Elles sont dans le trop.
Ouais.
Mais c'est ça qui est marrant aussi, c'est le contraste.
Ouais.
En fait, entre la famille de laquelle est issue Fran et la famille dans laquelle elle arrive et dans laquelle elle va s'intégrer, en fait.
Ouais, je pense que pour commencer cette série, si jamais ça devait tenter certains. Parce qu'il y en a certains qui ont recommencé Friends après avoir écouté le précédent épisode. Donc peut-être qu'il y en a certains qui vont
voir... Donc t'as espoir d'en tenter
commencer
une nulle en fait.
Mais je pense que le meilleur épisode pour commencer, ça reste le pilote. Parce que le pilote de la série est vraiment très bon. Il présente quasiment tous les personnages en 20 minutes de temps, ce qui est quand même pas mal.
Ouais, et en plus ça se fait de manière très fluide. C'est ça qui est...
C'est ça, c'est très organique. Donc le pilote est très bon. Après l'épisode qu'on a regardé aujourd'hui pourrait convenir aussi parce qu'en fait on voit bien la personnalité de chacun,
la dynamique entre les personnages est là aussi, donc
c'est ça, la dynamique entre les persos, les rapports qu'ils ont les uns aux autres, et la façon qu'ils ont de traiter ces rapports, de les exprimer, de les verbaliser. Donc tout ça, c'est présent et ça donne une série qui est encore regardable aujourd'hui parce que effectivement, son cœur, c'est la famille et la façon de se dire les choses tout en restant unis et soudés et en évoluant quand même parce que chacun apprend. Et les enfants, je crois, dans la série, sont la meilleure démonstration de ça parce qu'eux, ils grandissent pendant les 6 saisons.
Mmh.
Et on les voit passer différents stages, sortir de leur carapace, devenir d'autres personnes. Et c'est peut-être eux les meilleurs représentants de ça, du coup.
Oui, oui, oui.
De cette
évolution. Parce qu'en plus, eux, ils sont vraiment imprégnés, comme c'est Fran qui les éduque. Il s'imprègne aussi vachement de sa manière d'être, de sa culture à elle et tout ça. Et d'ailleurs, ils finissent par lui ressembler beaucoup en fait sur plein d'aspects, parce qu'en fait, elle se substitue un peu à la mère dans la famille.
Mm.
Et donc, on voit qu'au final, ils prennent beaucoup d'elle en fait.
Ouais, mais c'est ce qui fait que c'est chouette à regarder quand même, parce que c'est une belle évolution, c'est drôle, t'as des personnages forts, t'as des personnages entiers, donc c'est une série qui a les défauts de son époque, évidemment, mais si c'est une série qu'on regarde à nouveau, c'est parce que son fond, il est bon. Il est bon, quoi, et que c'est toujours un bon moment, même s'il y a des épisodes hyper émouvants, c'est toujours traité de manière assez jolie, assez belle.
Mm.
Je pense à l'épisode sur la fête des mères où Gracie et les autres enfants sont inscrits à un club. Alors, comment s'appelle ce club déjà, tu sais, quand t'es riche là et que tu...
Le country club.
Merci, voilà. Ils sont inscrits au country club et c'est la fête des mères et il y a un concours qui est organisé mère-fille. Et Gracie, elle concourt avec Fran parce que, bah, évidemment, sa mère est décédée. Et il y a une petite fille qui découvre le poteau rose dans le concours et qui va balancer Gracie et Fran au responsable du concours. Et Gracie a cette phrase déchirante, elle dit « Mais ma mère, elle est morte ». Et du coup, elle s'en va en courant. Et nous, on est là à regarder ça en disant « Mais c'est affreux, c'est horrible
!» Pauvre gamine.
Pauvre gamine et tout. Et en fait, pas du tout. L'épisode, il est ultra bien traité. Et en fait, c'est aussi pour ça que je pense qu'on aime Fran et qu'on aime la série et les personnages, c'est que malgré toutes les crasses qui se font les uns aux autres, parce qu'il y a beaucoup d'humour qui repose là-dessus par rapport à Sissi, par exemple,
oui.
Y a quand même un respect des personnages. Au moment où c'est le plus important, bah, ils vont se soutenir.
Mm-hmm.
Fran, elle tente pas de prendre la place de qui que ce soit, elle respecte la mémoire de la mère des enfants.
Ouais.
Quand Sissi a des grosses embrouilles, elle fait tout pour l'aider. Enfin, c'est...
Oui.
Voilà.
Oui, parce que c'est vrai que même si effectivement elles sont un peu mises en compétition en fait, Fran et Sissi, en fait, au fur et à mesure des saisons, elles deviennent presque, alors amies, c'est un grand mot, mais presque en fait, parce que plus les saisons avancent, et plus elles ont quand même des moments de complicité. Alors toujours avec une petite pique ou deux, des petits commentaires sarcastiques pour rééquilibrer un peu tout ça, mais même elle se rapproche en fait.
Ouais.
Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que ouais, tout le monde grandit et elles arrivent quand même à se trouver ouais, des atomes crochus et je trouve ça bien aussi, quoi, que ce soit pas juste deux femmes harpies qui s'aiment pas et qui se crachent dessus jusqu'au bout
Ouais, c'est sûr. Bah, ça fait partie de ce qu'on disait sur la représentation des femmes dans la série, c'est plutôt top.
Mm.
Les femmes dans la série sont plutôt toutes représentées de manière positive et même entre elles, en fait. C'est ça qui est cool.
Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est ça qu'on a parlé donc des femmes fines.
Ouais.
Mais Sissi est aussi une femme forte en fait, parce que...
Oui, c'est vrai.
Parce que pour le coup, elle est vraiment toute seule. D'ailleurs, elle n'est pas du tout proche de sa famille.
Non.
Sa famille, c'est un peu Maxwell en fait.
Ouais.
Et elle, pour le coup, elle est vraiment très indépendante.
Bah, c'est un peu ce qui la rend détestable parfois, parce qu'elle est tellement indépendante qu'elle a pas de... Des fois, elle est égocentrée. Elle a pas de regard pour les... L'épisode où c'est Niles qui fait croire à Sissi qu'en fait il n'y a pas trois enfants mais quatre enfants et qu'elle en a perdu un lors d'une sortie. Mais alors, mais...
Mais oui.
Cet épisode il est improbable, mais il est tellement drôle.
Mais il est tellement drôle.
Alors, Niles, est-ce que tout le monde est prêt? Maxwell, Margaret, Brighton, Gracie.
Oh, mais quel progrès! Ensuite?
Ensuite quoi?
Oh, pour l'amour du ciel, c'est votre favori, le petit Sydney.
Ils sont quatre enfants? Oh oui, ça me dit quelque chose, ce petit. Oui, j'ai déjà vu ce visage.
Mais bien sûr, c'est évident.
Mais parce que c'est aussi un peu un running gag qu'elle n'arrive pas à se souvenir du prénom des trois enfants de Maxwell, alors que ça fait 15 ans qu'ils sont associés,
ouais.
Qu'elle elle est un peu amoureuse de Maxwell et elle n'arrive même pas à se souvenir du prénom de ses enfants, quoi. Et...
Ce qui, voilà, on la retrouve vraiment très égocentrée, etc. Mais en fait, on découvre au fur et à mesure de la série qu'elle a des explications pour ça. Elle s'est sentie toujours délaissée par sa famille. En fait, elle avait que elle sur qui compter.
Mm-hmm.
Et ça, du coup, ça se comprend, le fait qu'elle soit égocentrée. Et au final, elle aussi, elle va évoluer durant ces saisons. Et,
ouais.
Et c'est chouette à regarder. Elle est le bouc émissaire favori de Niles.
De Niles, ouais.
Mais Niles est le bouc émissaire favori de Sissi. Ils se rendent très bien tous les deux.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand Sissi n'est plus là, parce qu'en fait, donc petit backstory, l'actrice qui joue Sissi est tombée enceinte pendant le tournage.
Yes.
Et donc, forcément, un moment, congé maternité oblige, pendant quelques épisodes, elle n'est plus là.
Oui, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de congé mat très long, mais il faut bien accoucher.
Voilà, il faut bien accoucher quand même un petit peu.
Il faut y aller.
Faut se remettre. Donc, pendant quelques épisodes, elle n'est plus là. Et dans la série, ils ont intégré ça, comme quoi elle, concrètement, elle fait une dépression.
Ouais.
Pète un câble, elle fait une dépression. Et donc, elle part en cure pour se remettre. Et pendant ces épisodes-là, Niles est perdu.
Oui,
c'est vrai. Sissi n'est plus là. Et il est vraiment tout penaud, tout il sait plus quoi faire de lui-même en fait. C'est vraiment
il est perdu, il est paumé de sa life, il est zonard, il erre comme une âme en peine dans la maison.
Mais vraiment. Et lui-même le dit d'ailleurs quand elle est pas là, je suis perdu en fait. C'est vraiment. Ouais. Et donc c'est ça qui est marrant, c'est que je trouve que toutes les relations entre les persos et tout,
ouais,
ont plus d'une facette en fait. C'est quand même assez complexe, parce que même Sissi, effectivement, qui est donc une femme, on l'a dit, un peu égocentrée, un peu avec la pas du gain, tout ça,
ouais,
c'est aussi une femme qui est en fait vachement seule, qui souffre aussi un peu de sa solitude, on le voit parfois,
ouais,
et qui demande qu'à se trouver une famille, à se trouver son cercle à elle, en fait, et ouais, je trouve que c'est intéressant parce que tous les personnages sont un peu fouillés, quoi. C'est pas juste bah tiens, toi tu vas être la chieuse.
Ouais. Ils sont pas unidimensionnels.
Voilà, c'est ça, merci.
C'est avec plaisir, j'ai traduit. pour conclure parce que ça fait quand même un petit moment qu'on discute.
Ouais.
Pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette série au global, ouais, de manière succincte, rapide, pour résumer un peu.
Ouh là là, on a dit tellement de trucs, je sais pas.
Ouais.
Que moi, je dirais que voilà, même si c'est une série des années 90 qui sent les années 90,
ouais, c'est clair.
Clairement à plein nez. Hein, je trouve que c'est quand même une série qui, sur bien des aspects, a plutôt bien vieilli. Et ouais, ça donne une bonne image, en tout cas, je trouve, de un bon personnage féminin, en fait, sur lequel non, mais je sais pas comment l'exprimer, en fait, mais
ouais.
Ouais, un personnage féminin positif. Je sais pas comment le dire.
Ok. Ouais, non, j'aime bien. Je trouve ça bien. Moi, je rajouterais en disant que donc elle fleure bon les années 90, mais c'est aussi de temps en temps, ça fait aussi du bien de regarder ça parce qu'il y a un côté Madeleine de Proust.
Ouais.
Alors peut-être pas pour ceux qui n'ont jamais regardé ça, mais pour nous c'est vraiment très présent parce que ça rappelle des souvenirs. Et au-delà de ça, je trouve que c'est une bonne plongée dans les années 90 aux États-Unis. Il y a multitude de références culturelles que si on n'a pas, et ben c'est pas grave, ça nous empêche pas d'apprécier la série, mais si on les a ou si on les cherche, et ben en fait ça prend une nouvelle dimension. Je dirais que c'est une série qui est pas aussi simple à lire qu'au premier abord, qu'elle offre, voilà, qu'elle offre plusieurs niveaux de lecture, et que ces niveaux de lecture s'expriment chez tous les personnages tout au long des 6 saisons, et plus particulièrement chez les femmes qui sont toutes bien représentées, bien écrites, et qui proposent des modèles un peu badass, quoi, des voilà. Est-ce que je te laisse le mot de la fin ou est-ce que tu veux nous faire une Stéphane Bern encore?
Je peux faire une Stéphane Bern, mais je ne sais pas si c'est.
Moi j'aime bien. Je laisse le Stéphane Bern et comme ça après, tu sais, je coupe et je fais le générique. Moi je trouve ça pratique, tu vois. Mais avant que tu fasses le Stéphane Bern, je dirais juste regardez cette série, laissez-lui une chance.
Oui,
Et
s'il vous plaît, s'il vous plaît.
voilà. Rejoignez-nous dans notre fan attitude.
Ça vaut le coup.
Ça vaut le coup.
Franchement, il y a des pépites. Vraiment, il y a des pépites.
C'est clair. Donc voilà, non mais regardez, tentez, donnez-lui une chance, c'est 20 minutes d'épisode. Ça vous fait pas d'ampoule au cerveau parce qu'il n'y a pas d'enjeu ultra dramatique et on n'est pas devant Breaking Bad ou Game of Thrones.
Clairement pas.
Mais c'est une bonne série bonbon, un peu comme ce que savaient faire les années 90, quelque chose qui est réconfortant et vers lequel on a envie de se tourner quand on est plus vieux et que des fois on n'a pas envie de réfléchir et de penser à des trucs pas cool.
Ça fleure bon l'insouciance.
Oh, c'est beau ça!
Hein?
C'est pas mal ça!
Quelle belle phrase.
Ça fleure bon l'insouciance. Ça irait bien avec une petite Stéphane Bern?
Stéphane Bern? Allez.
Vas-y!
Eh bien, merci à tous et rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Secret d'Histoire.
Tu fais ça tellement à la perfection!